VOA Afrique, les infos. À Washington.
Chérubin Dorsil pour ce bulletin d'information. Dans quelques minutes, nous aurons Timothée Donangmaï dans son magazine Sporama. En attendant, voici les principaux points de l'actualité ce soir. Nous ouvrons au Népal où un puissant séisme a fait des milliers de morts. On parle de près de 4000. Le séisme a causé des dégâts matériels considérables. Des centaines de personnes tentent de fuir Katmandou, la capitale. L'ONU a promis une aide humanitaire massive aux sinistrés. Le point avec Jean-Roger Bian.
Alors que le bilan s'alourdit, les rescapés du tremblement de terre se ruent en masse sur les produits alimentaires et les stations-service pour faire des réserves, redoutant des pénuries. Les milliers d'habitants qui ont perdu leur logement et sont contraints de camper craignent maintenant d'avoir à faire face à des maladies. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU, le PAM, prépare une opération massive d'aide et espère envoyer au plus vite un premier avion chargé d'aide alimentaire. Les enfants sont particulièrement fragilisés par le sinistre et près d'un million d'entre eux ont un besoin urgent d'aide humanitaire selon l'UNICEF. Les secouristes népalais reçoivent le renfort de centaines d'humanitaires arrivés de pays comme la Chine, l'Inde et les États-Unis et de nombreux États et organisations ont promis leur aide. Les hôpitaux sont débordés et les médecins sont mobilisés 24 heures sur 24 pour soigner les blessés dans des conditions très difficiles. Les morgues arrivent quant à elles à saturation. Le tremblement de terre est le plus meurtrier qu'a connu le Népal depuis 80 ans.
Au Burundi, la police anti-émeute a dispersé de nouvelles manifestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Idriss Fall.
La police, appuyée par les Imbonerakure, une milice proche du parti au pouvoir, ont dispersé de manière musclée les milliers de personnes qui avaient osé braver l'interdiction de manifester. Hier, au moins deux manifestants ont été tués par balle à Bujumbura. Ce lundi, Pierre Clavé Mbonimpa, défenseur des droits de l'homme, a été arrêté et un mandat d'arrêt a été lancé contre Vital Chimirimana, président du Forum de la société civile. Ils avaient appelé à des manifestations pacifiques. Les autorités burundaises ont fermé la radio publique africaine, principale radio indépendante du pays. Depuis hier, trois grandes radios privées ont été interdites d'émettre en dehors de la capitale. Et elles sont accusées d'inciter les populations au soulèvement. Craignant le pire, au moins 17 000 Burundais ont fui vers le Rwanda et la République démocratique du Congo. Réagissant à la candidature de Pierre Nkurunziza, les États-Unis disent regretter le non-respect de l'accord d'Arusha qui limite à deux les mandats présidentiels et dénonce une occasion ratée pour la démocratie au Burundi.
Il faut dire que d'autres personnalités de la société civile burundaise sont également visées par les autorités. Le cas, par exemple, de Gabriel Rufiri, le président de l'OLUCOM, une association de lutte contre la corruption. Il a dit à VOA Afrique qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt et craint pour sa sécurité. Nous avons parlé du cas du président du Forum de renforcement de la société civile, Vital Nshimirimana. Il y a aussi Pacifique Ninina Azoué, président du FOCOD, qui se trouve dans la même situation. Ces figures de l'opposition se sont prononcées contre la candidature du président burundais Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. Au Togo, le président sortant Fornia Singbe est en tête des premiers résultats partiels de l'élection de samedi. Des précisions avec Eddie Isango.
Il est encore trop tôt pour parler des tendances déterminantes de ces élections. La Commission nationale électorale togolaise n'a publié lundi que 12% des résultats. Toutefois, Fornia Singbe mène largement avec plus de 133 000 voix, soit 62% des suffrages dépouillés. Son principal adversaire, Jean-Pierre Fabre, vient en deuxième position avec plus de 68 000 voix, soit 32%. Les autres candidats de l'opposition nagent encore autour de 1% pour ces élections boycottées par une partie de l'opposition. L'opposition avait en effet, avant ces élections, organisé plusieurs manifestations exigeant la révision de la Constitution pour empêcher un troisième mandat de Nyansigwe qui prolonge à la tête du pays un régime dirigé par sa famille depuis 48 ans. La situation reste pour le moment calme, mais tendue au Togo. Le président Nyansigwe avait initialement été porté au pouvoir par l'armée en 2005 à la mort de son père, le général Nyansigwe Yadema, qui avait gouverné le Togo d'une main de fer pendant 38 ans. Mais il a organisé en 2010 des élections qu'il a remportées malgré les contestations de l'opposition qui ont fait des centaines de morts.
Il y avait des élections également au Bénin, des élections législatives. C'est le calme au lendemain de ce scrutin. Le dépouillement a commencé. La commission électorale a 8 jours pour donner les premières tendances au Bénin. Dans le nord du Mali, le groupe d'autodéfense Touareg des Imgad et ses alliés ont délogé le MNLA et occupent la ville de Menaka. Cela intervient au moment où la communauté internationale et le gouvernement malien tentent une sortie de crise négociée avec la coordination des mouvements de l'Azawad, dont le MNLA. Reportage Boubacar Touré.
Située à 317 km de Gao, en allant vers le sud-est, la ville de Menaka est tombée dans les mains du groupe d'autodéfense des Imrad, l'ethnie Touareg du général Gamou, donc proche des autorités de Bamako. Les combats qui étaient violents et qui ont duré plus d'une heure et demie ont contraint les habitants de la ville à chercher des abris. Selon un habitant contacté sur place, la ville est désormais sous le contrôle des combattants de Gatia et alliés qui ont été acclamés par une population à l'Est avec des drapeaux du Mali et qui scandaient « Vive le Mali, vive le Gatia ». Pour l'instant, nous disposons d'aucun bilan, mais tout laisse croire que les affrontements étaient violents. Le calme semble être revenu. Il faut le rappeler, la ville de Menaka était jusque ce matin encore sous le contrôle du mouvement national de libération de l'Azawad depuis les événements du 17 mai 2014 où l'armée malienne a été chassée de certaines villes du nord après la rentrée en force à Kidal de Moussa Mara, premier ministre d'alors. Gao Boubacar Touré, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Au Soudan, le président Omar Hassan al-Béchir a été réélu pour un autre mandat de 5 ans, avec plus de 94% des suffrages. L'opposition a boycotté le scrutin, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour une élection libre et équitable. Lionel Gaïma.
La commission électorale a annoncé aujourd'hui cette victoire largement attendue après les élections présidentielles, parlementaires et régionales qui se sont déroulées du 13 avril au 16 avril. M. Bachir est au pouvoir depuis 1989 et il est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. L'homme fort de Khartoum n'avait en face de lui que 13 challengers plutôt inconnus et la participation n'a été que de 46% selon la commission électorale soudanaise. L'Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège avaient tous critiqué cette élection, déplorant l'absence du dialogue national promis, une situation qui prive le Soudan d'un processus politique inclusif.
Négociations sur le nucléaire iranien, le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif se sont rencontrés aujourd'hui à New York pour la première fois depuis l'annonce d'un accord préliminaire entre Téhéran et le groupe 5+1. Par ailleurs, la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques Wendy Sherman a déclaré que tout accord sur le programme nucléaire iranien comprendra, je cite, « le plus important mécanisme de contrôle jamais négocié par Washington avec un pays étranger ». Un accord final devrait être conclu d'ici fin juin. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, une Africaine-Américaine va diriger l'appareil judiciaire à l'échelle fédérale. Loretta Lynch a été installée ce matin comme ministre de la Justice en remplacement d'Eric Holder. Le vice-président Joe Biden, qui présidait la cérémonie, a dit que cette investiture n'est pas venue trop tôt. Une référence au long processus de confirmation au Sénat. En effet, après la démission de M. Holder, la majorité républicaine avait bloqué la confirmation de Loretta Lynch en raison de certains désaccords avec le président Obama sur l'immigration, par exemple. Toujours aux États-Unis, la tension reste vive à Baltimore, dans l'est du pays, où ont eu lieu ce matin les funérailles de Freddie Gray, le jeune noir de 25 ans qui a trouvé la mort 2 semaines plus tôt, alors qu'il était dans un fourgon de la police. Une manifestation était prévue cet après-midi devant l'hôtel de ville. La police a arrêté plusieurs dizaines de personnes ce week-end lors de manifestations contre la mort de Freddie Gray et contre les brutalités policières en général. Gray a succombé à des blessures graves au niveau de la colonne vertébrale, mais rien n'a été dit jusqu'à présent sur l'origine de ces blessures. Le Sénégal célébrait ce lundi la journée de commémoration des résistances pour l'abolition de la traite des Noirs et de l'esclavage autour du thème « Bâtir une mémoire apaisée ». Plusieurs sujets de réflexion ont été abordés, dont le rôle de Gorée dans le mouvement abolitionniste, rapporte l'AFP, plutôt l'agence de presse sénégalaise. Étaient présents l'ambassadeur de Chine, le conseiller culturel de l'ambassade de France, des représentants des États-Unis, de la Belgique, du Mali, entre autres personnalités, selon l'AFP. Le Sénégal a voté le 27 avril 2010 une loi déclarant l'esclavage crime contre l'humanité. Le 27 avril 1848 est la date de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Voici pour ce bulletin d'information, ici chez Romain Dorcil à Washington.
Soyez au cœur de l'info.